Voilà qui est bien dit. Nous ouvrons donc cette deuxième partie de la conférence de presse des Nations Unies avec la séance des questions-réponses. Et comme d'habitude, je vais vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre sous silencieux en tout cas. Et je rappelle que nous avons autour de cette table et à Goma le général Bayo, commandant adjoint de la force, qui pourra répondre aux questions du volet militaire. Nous avons José Maria Aranaz qui a présenté son rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme en septembre ici à RDC. Nous avons donc Monsieur Diaga Gueye, le patron de la FAO ici à RDC, qui nous a parlé de la journée mondiale de l'alimentation et bien sûr il y a l'équipe pays représentée par Florence et les collègues qui sont autour de nous qui pourront bien sûr répondre à des questions. Nous allons commencer par une femme comme d'habitude, même si Monsieur Kobler n'est pas là, on peut toujours commencer par des femmes.
Abibou Bangré pour l'agence France Presse. Une question pour le général Bayo. Je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer comment des personnes qui étaient dans la délégation conjointe avec la MONUSCO et des officiels expliquent qu'il y avait 4 personnes tuées lors de l'attaque aérienne de la MONUSCO. Est-ce que selon vous, ce sont des personnes qui auraient pu être tuées avant l'attaque de la MONUSCO ou voilà.
Général Bayo à Goma, vous avez entendu la question, je suppose.
Merci pour cette question et bonjour à nos auditeurs. Je pense que de ce cas dit tout à l'heure notre porte-parole à Kinshasa par rapport à cette opération, il faut d'abord retenir que nous souhaitons une seule chose, c'est la vérité. Nous voulons travailler en toute transparence et nous soutenons des visites d'évaluation ou d'investigation même qui ont déjà eu lieu et comme ça a été dit aussi, qui vont se poursuivre. Ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir permettre à ceux qui veulent vérifier des faits de le faire effectivement sur le terrain. Il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites, un certain nombre de bilans qui ont été rapportés. La MONUSCO s'est tenue à ce qu'elle peut affirmer de manière certaine. Nous avons constaté avec nos soldats sur le terrain la présence d'un combattant illégal tué. Nous en sommes restés nous-mêmes à ce constat. Comme ça a été dit dans le communiqué, deux visites en fait ont déjà eu lieu à Goma et elles ont permis de rencontrer des blessés, de rencontrer des témoins.
Et à Walikale.
Pardon, à Pinga.
À Pinga, voilà.
Non. Les visites ont eu lieu à Pinga, pardon, excusez-moi. Et ont permis de rencontrer un certain nombre de gens qui étaient blessés et de certainement pouvoir confirmer que ces gens n'ont pas été blessés, en tout cas pour certains par la MONUSCO. Ils ont été blessés par balles de Kalachnikov. Nous pouvons dire effectivement quelles munitions nous avons utilisées. Et il est pratiquement sûr que ces blessés sont le résultat de combats entre le FDLR et son groupe armé, et non pas du fait de la MONUSCO. Donc, il y a une troisième visite qui est en cours de préparation. Nous avons ce matin des hélicoptères qui ont surveillé la zone. Comme le disent les gens de Pinga, c'est une zone de combat, c'est une zone d'opération. Comme c'est le cas aussi quand on remonte plus haut vers le Loubero et qu'on descend plus bas dans le Walikale, c'est ça la réalité des choses. On ne va pas là-bas facilement. Il y a des raisons pour lesquelles les populations ont complètement quitté ces villages et pourquoi ces villages, en fait, sont des lieux d'affrontement entre différents groupes armés. Mais nous ferons tout notre maximum de manière à permettre l'accès, on va dire, puisque nous avons des hélicoptères et nous avons des moyens de sécuriser cette zone de manière à ce que les investigations puissent être pleines et entières.
Deuxième question ici, toujours à Kinshasa. Nous avons un micro là. Bon, ben, allons-y. Oui.
Guy Oloumé, RTNC2 Développement. Ma question s'adresse à M. Gueye. La RDC regorge d'immenses terres arables, souvent mal exploitées et sous-exploitées. Alors, vous venez tantôt d'évoquer que l'agriculture, pour une réponse pour, par rapport à la pauvreté. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, lorsque les FAO, PAM, etc., viennent en aide aux sinistrés, aux populations, ce sont des maïs exportés de Singapour, de pays d'Asie, mais la RDC a des terres arables, mais non exploitées. Qu'est-ce que la FAO fait pour mettre en évidence, pour mettre les moyens pour exploiter ces terres-là, pour que demain, la population ne souffre pas des sous-alimentations, pour que demain, on ne vienne pas avec des sacs de maïs exportés des États-Unis d'Amérique pour venir nourrir les Congolais?
Merci beaucoup. C'est une très bonne question et une très bonne préoccupation, effectivement. Je dois vous dire ceci, que nous, à la FAO, Nous avons un principe, c'est qu'au lieu d'apprendre de donner du poisson, il faut plutôt apprendre à pêcher. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons. Il se trouve que on ne peut pas opposer l'urgence, la transition et le développement. C'est trois choses qui peuvent aller ensemble. Aujourd'hui, peut-être que même si c'est moins visible, notre action, bien évidemment en partenariat avec le gouvernement, mais aussi avec tous les autres acteurs, c'est de faire en sorte que demain, la RDC ne soit plus en mesure d'importer. La RDC devrait même être le grenier de l'Afrique centrale, pour ne pas dire de l'Afrique tout court. Vous l'avez dit, il y a tout. Le terre arable, il y a l'eau, mais l'eau, par exemple, simplement, si je vous réponds à cela, il ne suffit pas d'avoir de l'eau, il faut la maîtriser aussi. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons. Ne pensez pas que c'est seulement en distribution des intrants qui sont venus de l'extérieur que la FAO, par exemple, travaille. Nous travaillons avec, par exemple, le PAM aujourd'hui dans ce que nous appelons les projets achats pour le progrès, c'est-à-dire que nous, FAO, par exemple, nous encadrons les producteurs et les productrices pour produire et le PAM achète pour distribuer. Donc, il faut quand même le dire, ça ne se décrète pas, c'est un processus qui peut être relativement long, mais c'est sur ce que nous travaillons d'arrache-pied, bien évidemment, comme je le dis toujours, en relation avec le pays, les autorités et les autres partenaires.
Dernière question ici avant d'aller peut-être oui, allez-y, présentez-vous et puis une question s'il vous plaît.
Merci, Symphorien Katumba, l'explorateur. J'ai une préoccupation à Monsieur Charles-Antoine Bambara. Dans le cadre de la célébration des 70 ans d'existence de l'Organisation des Nations Unies, organisée par la MONUSCO, le 2 août-octobre 2015, sous débat avec les étudiants finalistes en droit et sciences politiques et plusieurs universités de Kinshasa, quelles sont les recommandations des étudiants dans l'ensemble de l'activité lancée auprès de MONUSCO?
Cette activité avait été menée par notre département outreach de communication sociale. Est-ce que monsieur Alexandre Essomé est là? Peut-être qu'il va nous jeter rapidement les conclusions de cette rencontre. Non, mais je transmettrai au groupe L'Explorateur ces conclusions-là. C'est vrai que c'était une rencontre assez utile, assez intéressante du point de vue non seulement des présentations des différents facilitateurs. Il y avait d'ailleurs le général Bayou, le chef de un représentant de la police UNPOL, un représentant des droits de l'homme d'ailleurs, qui ont fait de brillantes exposés. Ils ont interagi avec les journalistes. On va vous transférer donc les conclusions de cette rencontre. Merci et nous allons tout droit à Goma pour prendre trois questions. Goma, c'est à vous.
Monsieur Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question s'adresse au général Bayo concernant Walika de toujours. Il y a des émissions qui passent en boucle dans les chaînes de télé et de radio ici à Goma, même aussi à Kinshasa, accusant la MONUSCO d'avoir tué ou mené des attaques ciblées contre les populations civiles à Walika. Mais à travers même le gouverneur de province, lors de son discours, il a confirmé que la MONUSCO a tué. Est-ce qu'il a même cité 5 personnes? Ce n'est pas une façon du gouvernement de dire à la MONUSCO de plier bagage. Merci.
Vous avez cité un certain nombre de commentaires qui ont été faits selon ce que vous dites dans un certain nombre de radios. Pour moi, c'est l'occasion d'expliquer un peu le travail que nous faisons dans la MONUSCO, s'agissant de l'emploi de nos moyens, de l'exécution de notre mandat. On parle de bombardement. On parle de bombardement sur des populations civiles. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de bombardier à la MONUSCO. Et que l'emploi de nos hélicoptères n'a qu'un seul but, c'est de permettre la sécurité des gens qui vont au sol dans des zones difficile d'accès, de manière à pouvoir intervenir si possible, faire la vérité et si nécessaire, neutraliser les groupes armés, tous les groupes armés, et pas uniquement un seul, nous sommes impartiaux de ce point de vue, de manière à exécuter notre mandat. Donc il serait totalement irresponsable de tout militaire, pas d'ailleurs que la MONUSCO. Je peux vous dire que dans mes interactions avec les responsables des FRDC, c'est le même processus de décision qui se prend. Nous prenons beaucoup de risques pour ne pas employer trop de force quand il y a simplement un risque que des populations civiles soient présentes. Donc je voudrais quand même aussi appeler les gens à leur responsabilité dans leurs commentaires, à vérifier ces informations, à prendre effectivement l'opportunité de l'ouverture qui était faite par la MONUSCO dès le lendemain de cette opération. Parce que nous savons effectivement, nous avons tout de suite compris qu'il y avait des interprétations qui étaient faites tout de suite. Dès le lendemain, une équipe est allée à Pinga. Et nous aurions pu les amener à Minova si effectivement les conditions sécuritaires étaient réunies, ce qui n'était pas le cas. Et nous allons certainement le faire dans les prochains jours. Donc il faut être responsable dans ces déclarations. Et aussi, je pense qu'il faut réfléchir au message que l'on veut apporter au peuple congolais, aux populations qui sont affectées par ces combats. Ce matin, j'entendais que peut-être le même groupe qui était touché par cette action à Minova, il a peut-être brûlé d'autres maisons un peu plus au nord. J'entendais qu'un groupe qui a attaqué la MONUSCO, qui a blessé un de nos officiers à Kachébéré, c'est aussi à la limite du Wali-Calais, il est en train de recruter des enfants soldats. C'est un crime. Donc, brûler des villages, recruter des enfants soldats, s'en prendre aux populations, c'est ça qui doit retenir l'attention des gens. Et ce qui devrait, je pense, d'abord mobiliser, c'est la réponse à cette réalité et mobiliser notre action commune et l'action de la MONUSCO en soutien de vos autorités locales, provinciales, nationales pour arriver à ramener la paix dans la région.
Merci. Dernière question à Goma.
Oui.
C'est Raphaël Kiongi. J'adresse ma question à M. Bambara. En fait, le souci que nous avons à Goma, c'est de voir que la MONUSCO ne fournit pas beaucoup d'efforts pour amener le média ou les opérateurs de secteur de médias à pouvoir avoir l'information à la source. Dans les cas d'espèce de Pinga, M. Bambara, que pensez-vous de notre idée de solliciter auprès de la MONUSCO une descente d'un groupe de journalistes, une dizaine, à Pinga pour se rendre compte de ce qui s'est passé et enfin pour que cela puisse vous aider à mieux communiquer? Merci.
Oui, vous savez que le général Bayo, qui est d'ailleurs à Goma, est un fond des sorties des journalistes sur le terrain. Tant que cela est sécuritairement possible de le faire, nous essayons de le faire et nous en parlons régulièrement d'ailleurs avec le général Jean Bayo, qui est le commandant adjoint de la force sur place. Et nous allons voir dans les jours qui viennent. Il a dit tout à l'heure que des hélicoptères survolaient les zones pour voir s'il y avait suffisamment de sécurité pour qu'on envisage un autre voyage sur le terrain. Vous savez que c'est pas toujours évident. Si vous allez, c'est vrai, en sortie avec la force de la MONUSCO, la force de la MONUSCO est responsable de votre sécurité. On ne peut pas vous emmener sur le terrain parce que vous voulez aller sur le terrain. Il faut qu'on garantisse un minimum de sécurité autour de ce voyage. Et chaque fois que cela sera le cas, nous pourrons faire organiser ce genre de voyage en collaboration et sous les conseils de la force. Voilà, je ne sais pas si le général veut ajouter quelque chose avant qu'on ne retourne ici à Kinshasa. Bon, posez la dernière question alors, allez-y.
Je suis Rosaine Calafoulo de la radio Pôle FM en Goma. Ma question, je l'adresse au général Bayo, qui tout à l'heure, son collègue qui est à côté parlait que la MONUSCO reconnaît qu'il y a seulement une personne qui a été tuée, et c'était une personne qui était, on peut dire, c'est un membre de groupes armés. Alors, on se demande, tout ce qui s'est dit, ce sont des rumeurs. On dit, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des délégations qui se sont déjà rendues à Pinga, conjointement avec la MONUSCO. Pourrions-nous avoir le rapport, le résultat de cette délégation conjointe qui s'est rendue sur place pour connaître un peu plus ce qui a eu lieu? Merci.
Merci. Je pense que le compte-rendu a déjà été fait dans le communiqué qui a été transmis.
Oui.
Donc, restons-en là. Je suis prêt, en aparté, après cette conférence de presse, à vous donner d'autres explications.
Voilà. Merci à Goma. Nous revenons ici à Kinshasa. Bon, allons-y un peu au fond. Essayons d'éviter les mêmes journalistes qui posent les questions à toutes les conférences de presse.
Oui, merci Monsieur Charles pour la parole. C'est Monsieur Théodore Ngandou, Télé 7. Je m'adresse particulièrement à José Maria Aranaz en rapport avec sa publication. Chaque mois, le BCNUDH rend public le rapport sur les violations des droits de l'homme. Si nous totalisons pour l'année 2014, vous avez publié 12 rapports. 2015, aujourd'hui le mois d'octobre, vous en êtes à 10. Bon, je me demande, avec tous ces rapports, chaque fois, vous citez les agents de l'État qui sont impliqués dans ces violations, et après, vous les classez dans les tiroirs. Aussi longtemps que ces agents de l'État sont cités dans ces rapports, qu'est-ce que le BCNUDH fait pour que, ensemble avec les autorités du pays, que ces violations puissent cesser? Parce que le mois prochain, vous allez encore publier notre rapport, cette fois-là peut-être avec 600 violations. Après, vous allez encore classer dans les tiroirs. Bon, ça va continuer comme ça. Et les violations, là, bon, nous en prenons connaissance, mais de manière concrète, pour y mettre complètement fin. Qu'est-ce que le BCNUDH peut faire ensemble avec les autorités locales pour mettre fin à ces fléaux?
José Maria.
Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est la deuxième fois que m'a posé la même question ce matin à la réunion des corps diplomatiques, m'a demandé la même question. Les rapports, c'est seulement une façon de faire un diagnostic. C'est comme avoir la photo de la situation. Les rapports, ce n'était pas le but, l'objectif de notre travail. Toute l'information d'ici, contenue dans les rapports, chaque mois était partagée avec 16 autorités nationales pour prendre l'action. Comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec l'information? J'ai rapporté le dernier set de chiffres que j'ai rapporté et fait référence à la lutte contre l'impunité. Et jusque nous avons l'information, dans le mois de septembre, au moins 44 militaires de CFRDC et ces agents de la police ont été condamnés pour les actes constitutifs de violation des droits de l'homme dans le territoire de la RDC. Je peux vous donner des exemples. Donc, on a travaillé ensemble avec les autorités, on a donné l'appui au processus d'investigation, au processus judiciaire pour aider à mettre en place un cadre pour finir l'impunité. Mais comme vous avez bien dit, c'était la responsabilité des autorités nationales de prendre la responsabilité et de prendre l'action pour lutter contre l'impunité. C'est pour ça qu'on partage toute l'information et après ça, quand il y a l'opportunité, on donne l'appui à l'investigation, au processus pour compléter l'investigation. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Nous allons continuer cette conférence de presse ici, bien que je crois Radio Capi va continuer avec un bulletin d'information dans une minute. Ici donc, à la conférence de presse des Nations Unies, et je vais vous demander de focaliser vos questions sur Monsieur Ndiaga Gueye, le représentant donc de la FAO, qui pour la première fois vient vous rendre visite. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Nous allons prendre une question là et puis une autre question là. Allez-y, micro ici.
Merci pour la parole. C'est Saint-Germain-des-Prés pour le camp de Géopolis. Je m'adresse au patron de la FAO en RDC. Il existe dans le monde des habitudes alimentaires qui sont incompatibles les unes avec les autres. C'est le cas du chien dont la viande est très prisée dans les deux Kasaï, alors que sa comestibilité n'est pas universellement approuvée. La question qui a l'air paradoxale est celle de savoir existe-t-il au sein de la FAO un répertoire alimentaire mondial. J'ai parlé.
Vous avez compris la question, j'espère. Existe-t-il un répertoire alimentaire mondial? Voilà. Un peu de calme, s'il vous plaît.
J'espère avoir compris la question.
Et ma réponse serait d'emblée de vous dire non, il n'y a pas un reporter mondial. Non, le proverbe dit bien que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce qui est valable chez moi ne l'est forcément pas chez ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, nous à la FAO, nous sommes en train de promouvoir l'élevage des insectes comestibles ici en RDC. Les cancrelats, le grillon. Mais ailleurs, peut-être que dès que vous dites cela, ça fait tourner la tête tout de suite. On dit, dans quel monde je suis? Est-ce qu'on mange des grillons? Donc, il n'y a pas véritablement de répertoire. Ce qui est important surtout, c'est de reconnaître et d'admettre les différences sur le plan culturel et culinaire et habitudes alimentaires. Hein? Ici, nous promouvons les chenilles. Peut-être que dans mon pays, je viens du Sénégal, c'est moins bien accepté, mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Donc, il n'y a pas de répertoire alimentaire mondial. Il y a tout, mais on laisse à chacun, selon ses habitudes, de consommer comme il le souhaite.
On va prendre une autre question ici. C'est monsieur.
C'est Alain Waikani, chez Nouvelle, accompagné de CCTV. J'ai aussi une question. Vous avez déjà mentionné quand même les insectes comestibles. Moi, je voulais savoir ces projets, où sommes-nous avec? Est-ce qu'il y a un résultat? Mais aussi, vous avez parlé plutôt de la situation alimentaire au monde. Je pense que FAO peut néanmoins détenir quelques statistiques. Ici, en RDC, actuellement, comment vous présentez la situation alimentaire? Merci.
Merci beaucoup, Alain. Bon, par rapport au projet sur les insectes comestibles dont j'ai parlé, nous sommes juste dans le cadre d'un projet pilote qui va nous permettre peut-être d'amorcer la pompe pour que démontrer qu'il est possible de gagner sa vie dans l'élevage des insectes comestibles et de bien gagner sa vie et de contribuer ce faisant aussi à l'amélioration de la situation de sécurité alimentaire dans le pays. Parce que c'est quand même des protéines extrêmement riches qui peuvent contribuer à l'alimentation des populations. Et on les mange déjà ici, les grillons, les chenilles et tout. Mais peut-être qu'on les exploite toujours sur une forme artisanale. Nous, nous sommes en train de travailler avec, bien sûr, les autorités gouvernementales, mais aussi avec beaucoup d'autres structures intervenant dans ces filières-là, pour qu'on avance dans l'exploitation de cette mine qui est là et qu'on n'a pas suffisamment exploité. Maintenant, par rapport à la situation de la sécurité alimentaire en RDC, nous avons le privilège de pouvoir, en partenariat avec le PAM et tous les autres acteurs qui interviennent dans ce qu'on appelle le cluster sécurité alimentaire, de dresser au moins deux fois dans l'année une carte intégrée, qu'on appelle le ITC en anglais, c'est la carte intégrée de la situation de la sécurité alimentaire, qui donne un état des lieux global à RDC, avec des points verts, des points rouges et des points jaunes. Malheureusement, il faut l'avouer, c'est plus de points jaunes, un peu de points rouges et presque pas de points verts, des endroits où on peut dire que globalement, toute la population est en sécurité alimentaire. Si vous le souhaitez, nous sommes prêts à vous donner le maximum d'informations dans ce sens-là.
Merci. On va prendre une dernière question avant d'aller à Goma. Hein. Goma, on revient à vous, mais bon, je vois beaucoup de mains. On prend la dame, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de dames.
Nénette Famba, du journal Opinion. Une question pour le général. Bon, général, pourquoi la MONUSCO s'est précipitée à attaquer Tchéka, qui n'est apparemment pas plus dangereux que le F de l'air?
Et c'était quand cette attaque? Et c'était où?
Pardon? Il connaît.
Général, vous avez entendu la question. Je demandais des précisions, en fait. C'était quand cette attaque de Tchéka et c'était où? Est-ce que vous avez des informations?
Bon, il y en a, mais le général connaît.
Bon. Général, je vous laisse. Je vous laisse répondre. Général, c'est ça. Un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît. Voilà, merci, général.
Non, écoutez, moi, c'est d'abord l'occasion de dire à nouveau que c'est l'ensemble des groupes armés qui sont couverts par notre mandat. Il ne s'agit pas de dire l'un contre l'autre. Après, c'est une définition avec les autorités de votre pays, des priorités et du processus, on va dire, qui doit nous amener effectivement à intervenir contre les uns ou contre les autres. Il est évident que la reprise du dialogue stratégique et la reprise de la coopération que nous attendons tous, je pense, va être un élément capital effectivement de réussite effectivement de l'exécution de notre mandat. Je voudrais aussi prendre l'occasion de dire que le processus de désarmement de tous les groupes armés n'est pas un processus d'élimination physique. Je prends un terme un petit peu fort de manière que tout le monde puisse comprendre bien. Le but, c'est d'exercer la force minimale de manière à exercer la pression qui permettra de réagir, un processus de désarmement effectivement d'être exécuté. Il ne s'agit pas, ce sont les gens dont on parle, même si ce sont des combattants, même si ce sont des criminels, et je ne permets de dire que je ne partage pas votre avis pour dire que Tcheka n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui a un long registre de crimes. Hein. Y compris dans cette région. C'est quelque chose qui a été constaté par beaucoup de personnes. Le processus, ça doit être d'abord un processus inclusif qui prend en compte effectivement la réalité de ce pays, les problèmes de différence entre communautés, la présence de groupes armés illégaux, alors que notre mandat vise à soutenir un processus de restauration de l'autorité de l'État. Ce que l'on veut, c'est faire remplacer effectivement ces groupes armés par des policiers, par des militaires qui, au passage, il est attendu qu'ils se comportent bien. Ça, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. C'est ça, le processus. Donc, au-delà, effectivement, de l'écho fait autour de cet incident du 5 octobre, je pense que c'est l'occasion d'appeler tous les acteurs. Et quand je parle des acteurs, ça commence vraiment au fond des villages, au niveau des différents responsables de quartier, des différents responsables de communauté, de tous les gens qui ont un rôle social, de manière à contribuer vis-à-vis de leurs propres autorités, au niveau du territoire, au niveau de la province, mais aussi au niveau de Kinshasa, avec des acteurs militaires et non militaires, à définir des processus qui permettront de dépasser effectivement la situation où on a des groupes armés qui, malgré tout, combattent les populations et leur créent effectivement tous les crimes effectivement dont on peut être les témoins, mais surtout d'engager un vrai processus de réconciliation. Moi-même, je suis allé à Pinga depuis le mois de mai 2013, donc je peux vous dire que ça fait un sacré moment. J'ai vu Tcheka là-bas, j'ai vu aussi Pinga sans Tcheka, j'ai vu la différence aussi de voir Pinga village sans présence de groupes armés maintenant depuis longtemps. Mais nous avons été les premiers à remettre les pieds à MONUSCO, à permettre vraiment ce processus. Nous ne l'avons pas oublié, mais nous savons que ce processus ne peut pas se limiter à un endroit. On a parlé de Ntoto. Ntoto, c'est une situation qui est encore extrêmement fragile. Quel est notre objectif? C'est de favoriser l'engagement des acteurs provinciaux, des acteurs locaux, pour un processus de désarmement. Et c'est le même processus qui doit se développer un peu plus au nord. Maintenant, la question du FDLR, parce qu'elle est effectivement au fond de votre question. La MONUSCO est prête, dès que le moment sera venu, les conditions, entre autres politiques, le permettront, de s'engager pleinement pour le désarmement du FDLR. Je pense que cette question-là est très haute dans les priorités fixées par le Conseil de sécurité. C'est aussi une question qui est fondamentale pour conditionner effectivement un retour d'une paix durable dans la région. Donc nous sommes prêts aussi pour cette opération.
Voilà, nous allons clore ici cette conférence de presse alors qu'il est 10h, 12h, presque 10 minutes ici, 13h, 10 minutes à Goma. Merci d'avoir été en notre compagnie et très bonne semaine à tous et à toutes.